RJB Info, le journal, Séverine Boé, bonsoir.
Bonsoir, les décorations de Noël ne vont pas rester dans les cartons à Bienne. Malgré la crise énergétique qui se profile, leur temps d'allumage devrait toutefois différer des autres années. Explication dans un instant. La maladie de la jeunesse se nomme l'anxiété. Ce thème est au cœur de la nouvelle campagne de ProJunior Arc Jurassien. Les solutions pour contrer ce mal se trouvent notamment dans la prévention. En cyclisme, le Tour de Romandie s'apprête à vivre une première historique. Après 75 ans d'existence, la boucle romande se déclinera au féminin au début du mois d'octobre. Météo ce soir, le temps sera calme et sec sous un ciel très dégagé. Une nuit idéale pour observer les étoiles. Demain, la journée devrait être belle. Bienne ne compte pas tirer la prise des décorations de Noël. Le conseil municipal s'est penché aujourd'hui sur les manières de réduire sa consommation d'énergie en vue d'une éventuelle pénurie. Il propose notamment de baisser la température dans les bâtiments publics et appelle les entreprises à suivre les recommandations de la Confédération. Une campagne de sensibilisation dédiée à la population sera aussi lancée en novembre. Mais en décembre, pas question de supprimer les illuminations de Noël. La ville ne peut toutefois pas prendre de décision concrète puisqu'elle n'est pas propriétaire des décorations. La directrice des travaux publics de l'énergie et de l'environnement, Léna Franck.
Il y aura aussi des mesures à prendre pour l'éclairage de Noël, mais je ne pense pas qu'il faut tout arrêter pendant tout décembre, mais je pense bien qu'il faut réduire. Mais on va discuter avec les privés, parce qu'à Bienne, c'est les privés qui l'organisent. Donc, on va trouver ensemble une solution et on verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai prévu de faire une table ronde avec les guildes qui organisent l'éclairage de Noël, mais aussi avec les magasins, les commerçants, pour discuter la question, par exemple, de l'éclairage des vitres. Donc là, il y aura une coordination qui se fait pour trouver ensemble. Mais le but de la Confédération et aussi de la ville de Bienne, c'est d'avoir 15 à 20% moins de consommation d'électricité.
15 à 20% de moins de consommation d'électricité. Dans le cadre des illuminations de Noël, toujours, ça pourrait se traduire comment ?
Ça pourrait se traduire dans une solution où il y a une réduction de la durée où l'éclairage de Noël est atteint. Donc, on pourrait dire que c'est par exemple que le soir, mais la nuit s'est arrêtée, où il y a une réduction des jours, donc il n'y a pas tout le mois de décembre où c'est là. Ça, c'est les questions qu'il faut discuter et où il faut trouver une solution.
Des propos recueillis par Anthony Montandon. Notez que du côté de la guilde de la rue Nido, son président Peter Schmidt nous a confirmé que des mesures allaient être prises pour réduire la consommation d'énergie. Le temps d'éclairage sera réduit de 2h30 par jour et les décorations ne seront illuminées qu'à partir du 1er décembre. Toujours dans la thématique de la crise énergétique, les remontées mécaniques de la région ne devraient pas être trop impactées. Les fournisseurs d'électricité dont elles dépendent n'ont en effet pas annoncé de hausse significative pour la prochaine saison. Auprès d'Orvin, la question du maintien du ski nocturne se pose. La station est en effet la seule de la région à proposer cette offre. Marc-André Leschaud, président du conseil d'administration.
C'est clair que la question se pose aujourd'hui par solidarité envers les gens qui doivent arrêter leurs anciennes publicitaires pour cette année. Mais de nouveau, je pense que le conseil d'administration devra prendre des décisions d'ici notre prochaine séance, ou en tout cas la séance de début de saison. Est-ce qu'on va garder les pistes ouvertes de nuit ? Moi, je crois que c'est de nouveau, et au vu de l'affluence du nombre de gens qui viennent skier de nuit, je pense que c'est une offre touristique importante, régionale, extra-régional, et puis je pense qu'on devrait garder cette opportunité aux gens dans cette phase économique très austère d'augmentation des prix, du coût de la vie, des restrictions. On ne parle aujourd'hui que d'effets négatifs, que ce soit de la guerre en Ukraine, les propriétaires qui veulent construire, qui avaient prévu ça et qui ne peuvent pas parce que tout augmente. Je pense qu'on doit quand même garder quelque part un moyen de s'extraire de cette austérité. Je pense que c'est un moment de détente qui serait bienvenu pendant une saison hivernale.
La station des Bunionnais-Savanières est aussi prête à prendre des dispositions si des mesures de contingentement étaient demandées. Elle pourrait par exemple fermer les pistes plus vite ou fermer certaines remontées en prenant en compte l'enneigement et ses partenaires. Leur voix, c'est leur outil de travail principal. Nous sommes partis à la rencontre de Stéphanie Günther-Pizzaro. Elle réside à Bienne et elle est comédienne. En plus de jouer dans des films et dans des pièces de théâtre, elle double des voix et elle crée ce qu'on appelle des voix off pour les livres audio par exemple. Elle nous explique quelle est la différence entre ces deux manières de travailler avec la voix. Stéphanie Günther-Pizzaro.
Le doublage de voix de films, ben, c'est comme on peut s'imaginer. Les films existent dans une langue, en français mettons, et on voudrait avoir le film traduit en allemand. Pas avec des sous-titres, mais avec les acteurs qui prennent en charge les dialogues, etc. La voix off, c'est autre chose. Ça peut être des voix off de documentaires, ça peut être des voix off de films aussi, d'ailleurs, mais la voix off, c'est aussi, par exemple, l'enregistrement de livres audio. Donc, le type de support pour lequel on enregistre n'est pas le même.
Vous l'avez dit, vous êtes actrice, comédienne. Est-ce que tous les doubleurs, les créateurs de voix off sont des comédiens ?
J'ai presque envie de dire, oui, c'est un métier, mais qui est accessible à d'autres personnes que des gens formés en tant que comédiens. Mais c'est quand même un privilège du comédien de pouvoir mettre à disposition les outils qu'il a acquis pendant sa formation, puis de pouvoir se présenter au monde en disant, bah voilà, parmi les choses que je sais faire, et bah ça, et je le fais de manière professionnelle.
Stéphanie Günther-Pizzaro répondait à Diana D'Acosta. Son entretien au complet ainsi qu'un reportage dans son studio d'enregistrement sont à retrouver sur rjb.ch. La ville de Bienne souhaite se doter d'un congé prénatal. Le conseil municipal écrit aujourd'hui que cette mesure répondrait à une motion déposée en juin dernier. En ce sens, au Parlement de la ville, l'introduction de ce congé de 2 semaines placerait Bienne dans les premiers employeurs publics à offrir la possibilité aux femmes enceintes de se préparer dans le calme à l'arrivée de leur enfant. Cette mesure doit encore être avalisée par le conseil de ville. L'auteur présumé d'une agression au couteau dimanche à Longeau, près de Bienne, a été interpellé par la police cantonale bernoise. Âgé de 25 ans, cet homme a admis avoir blessé 3 personnes lors d'une altercation. Il a pu être identifié grâce à un objet trouvé à proximité du lieu de l'altercation, indique aujourd'hui le ministère public du Jura bernois, Selinde, et la police sans toutefois préciser la nature de cet objet. Des investigations complémentaires sont en cours. Et 2 brigandages se sont produits vendredi et samedi à Bienne. 2 téléphones portables ont été volés. Les victimes ont été sprayées au poivre, indique aujourd'hui la police cantonale bernoise. 5 jeunes hommes ont été interpellés samedi. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des brigandages ou d'être en lien avec d'autres cas similaires. Une enquête a été ouverte. L'anxiété, la maladie de la jeunesse, un thème qui est au cœur de la nouvelle campagne de ProJunior Arc Jurassien. Un clip de sensibilisation a été présenté ce matin. Il a été réalisé en collaboration avec des jeunes et le centre neuchâtelois de psychiatrie dans le cadre de la campagne Appel d'air de ProJunior. Les troubles de santé mentale qui touchent les jeunes, on en parle beaucoup depuis la pandémie. Mais au-delà du constat, il existe des solutions. Nathalie Ruffieux-Savoie, psychothérapeute au CNPEA.
Les solutions, je pense qu'ils sont essentiellement dans la prévention et dans le fait de pouvoir partager ces messages, de pouvoir partager les explications, les informations autour de ces vécus internes qui ne sont pas si perceptibles que ça et donc méconnus. On pourrait parler de tabous autour de l'angoisse et de l'anxiété. Donc ce clip participe à cet effort de prévention et d'information dans la population générale. Plus on en parle et plus ces vécus d'anxiété pourront être normalisés et nous l'espérons redevenir à quelque chose de gérable autant chez les jeunes que chez les adultes de la population.
Le clip de ProJunior sera projeté dans les cinémas de l'Arc Jurassien en tandem avec une campagne d'affichage. Dans un deuxième temps, il sera doublé dans toutes les langues nationales et diffusé dans tout le pays. La pilule du lendemain ne sera plus payante en France à partir de 2023. Le gouvernement l'a annoncé hier. En Suisse, l'accès à la contraception d'urgence est plus réglementé. Le comprimé est payant et surtout les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent répondre à un questionnaire auprès d'un professionnel de santé. Une discussion privée qui doit permettre de mesurer les besoins de la patiente. Or, certaines femmes ont rapporté avoir entendu des paroles blessantes ou jugeantes lors de tels entretiens. Catherine Charmillot, experte en santé sexuelle à Delémont, a déjà eu vent de tels agissements.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les pharmacies reçoivent des directives aussi fédérales, cantonales. Après, ils font le mieux qu'ils peuvent. Il y a la difficulté que quand on est dans la santé sexuelle, dans des thèmes un peu quand même sensibles comme ceux-là, ça tire des élastiques chez nous de toute façon. Donc c'est bien aussi peut-être la raison de venir le plus possible au centre de santé sexuelle, sachant qu'il n'est pas ouvert le week-end par exemple, ça c'est peut-être la difficulté. Pour rencontrer des personnes qui ont l'habitude de faire ce genre d'entretien sans aucun jugement et sans prise de position quelle qu'elle soit, parce que la femme, elle a le droit de décider ou de prendre une contraception d'urgence, bien entendu. Et c'est aussi, je trouve, une question du garçon ou de l'homme, parce que s'il y a une prise de risque de grossesse, il y a forcément derrière une personne de sexe masculin. Donc, nous, on félicite aussi beaucoup, et ça a beaucoup évolué, quand les garçons ou les partenaires viennent soutenir la femme.
À noter que les centres de santé sexuelle sont ouverts à toutes et tous pour toute question en lien avec la vie sexuelle et affective. Dans le Jura-Bernois, le seul centre de santé sexuelle est situé au Médicentre à Tavannes. Plus d'infos sur notre site internet. Les objectifs de réduire l'utilisation des engrais sont revus à la baisse. Et ce, en raison d'une motion de la PLR fribourgeoise Johanna Gapani au Conseil des États. Elle visait une décision du Conseil fédéral en matière de pesticides dans l'agriculture, combattue par l'Union suisse des paysans. Le Conseil fédéral s'appuyait pourtant sur la volonté de la majorité du Parlement. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejatoulami.
Le Conseil fédéral a adopté en avril une ordonnance pour baisser de 20% l'utilisation d'engrais d'ici 2030. Il se conformait ainsi à une initiative parlementaire adoptée par les deux chambres l'an dernier pour réduire les dangers des pesticides. Le monde paysan s'insurge contre un tel objectif. Il souligne la période délicate dans l'approvisionnement mondial. Selon lui et la PLR Johanna Gapani, si on réduit de 20% l'utilisation de fertilisants, on va provoquer une baisse de la production alimentaire. Suisse. Il faut donc revoir à la baisse cet objectif pour le fixer à 10%. Au nom du gouvernement, le ministre UDC Guy Parmelin a admis qu'il s'agissait certes d'un défi pour les paysans, mais réalisable. La verte vaudoise Adèle Torrance a souligné que modifier l'objectif fixé revenait à trahir une promesse faite par le Parlement et minimiser l'impact des pesticides sur la nature. En vain, une majorité de droite a accepté la motion Gapani. Le National doit encore en débattre.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h12.
Sport. Après le Tour de France, le Tour de Romandie va lui aussi se décliner au féminin. La boucle romande s'apprête à vivre une première historique du 7 au 9 octobre. Une centaine de coureuses professionnelles seront au départ de Lausanne. Elles seront notamment de passage par le Valais lors de la deuxième étape entre Sion et Thion, 2000, avant d'arriver à Genève pour l'épilogue. Le directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot, ne boudait pas son plaisir de voir naître son deuxième bébé.
C'est quand même un peu historique, hein. il faut être honnête, parce qu'en fait, le Tour de Romandie a 75 ans. J'étais pas évidemment là à ses débuts. Là, on est au début de l'histoire, donc c'est quand même plutôt sympa. On espère qu'elle durera. C'est toujours assez complexe de lancer des nouvelles choses, surtout dans l'économie actuelle, dans la politique actuelle. Mais on est très ambitieux, on est très content de présenter ce Tour de Romandie Femmes, d'autant plus que ce qu'on avait imaginé, projeté au niveau de la participation, au niveau des sponsors, au niveau des parcours, des villes qui nous reçoivent, se réalise. Alors c'est assez facile de venir en conférence de presse quand ce que vous aviez plus ou moins dit que vous alliez faire se fait, que de dire « ah ben non, finalement, on n'y arrivera pas », parce que c'était aussi une possibilité, on a quand même pas mal d'obstacles malgré tout chaque jour ou problèmes à résoudre. Donc on est quand même assez content d'être là avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce tour, on sera encore plus content quand il sera réalisé.
Le tout premier tour de Romandie féminin de l'histoire, ce sera donc du 7 au 9 octobre. Pour la première fois depuis son retour à la compétition, Stan Wawrinka a enchaîné une troisième victoire d'affilée. Après deux succès en qualification, le Vaudois a battu le Portugais João Sousa au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Metz en France. Victoire en deux manches, 7-6-6-2. Stan Wawrinka affrontera demain en huitième de finale le numéro 4 mondial, Daniil Medvedev. Le prochain point avec l'actualité, c'est le flash de 18h30. Excellente soirée à l'écoute RJB.